Aujourd'hui, nous recevons M. le professeur Robert Castel, qui est sociologue, directeur d'études à l'EHESS, directeur du Centre d'études des mouvements sociaux. Robert Castel a fait de nombreuses publications dans des revues, et je mentionnerai les trois dernières publications. Tout d'abord, le RMI, une dette sociale, qu'il a fait avec Jean-François Lahaye aux éditions L'Harmattan en 1991. Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat, qui est parue en 1995 chez Fayard. Chômage, le cas français, qui est un ouvrage qui a été fait avec beaucoup d'autres personnes, dont Jean-Paul Fitoussi, et qui est publié à la Documentation française en 1997. Voilà. Monsieur Castel, je vous laisse donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat de 20 minutes. Je vous remercie.
Bien, merci et bonsoir et merci aussi à vous toutes et à vous tous d'être venus. Alors, je propose donc ce soir une réflexion sur la propriété sociale. Alors, pourquoi ce choix ? Parce que il m'a semblé que cette notion pouvait constituer une entrée privilégiée pour saisir quelques-uns des enjeux principaux de la question sociale actuelle, et en particulier la contestation actuelle de l'État dans son rôle social de garant de la cohésion sociale. Alors, je définirai tout à l'heure plus précisément ce que j'entends par propriété sociale. Bon, disons juste pour commencer, pour en noter la finalité essentielle, qu'elle a principalement consisté à attacher des protections au travail, que le travailleur puisse, à partir de son travail, construire sa sécurité. Et l'État a joué un rôle essentiel dans cette construction. Et ce qu'on appelle l'État-providence est intervenu avant tout comme un réducteur d'insécurité et un pourvoyeur de services. C'est d'ailleurs pourquoi cette expression d'État-providence est fâcheuse, parce que elle donnerait à entendre que l'État interviendrait avant tout comme un pourvoyeur de bienfaits, distribuant des oboles à tous ceux qui en ont besoin, dans le prolongement de la charité. En fait, le rôle redistributeur de l'État social a toujours été très limité. Il a toujours laissé subsister de grandes inégalités entre les groupes sociaux. Par contre, son rôle protecteur a été fort. Et c'est pourquoi je dis qu'il agit avant tout comme un réducteur d'insécurité, un dispositif de lutte contre les risques sociaux pour assurer une sécurité sociale au plus grand nombre. L'État social, je préfère donc cette appellation plutôt que celle d'État-providence, ne fait pas la charité. Il a surtout mis en place des droits, des protections, des services pour lutter contre l'insécurité sociale. Et le moyen principal qui a permis à l'État de jouer ce rôle, ça a été la constitution d'une forme originale de propriété. La propriété sociale, différente de la propriété privée, qui a assuré la sécurité de ceux qui étaient en dehors de la propriété, en particulier de ceux qui n'avaient que leur travail pour vivre ou pour survivre. De sorte que, aussi, aujourd'hui, ce qu'on appelle la crise ou le recul de l'État social ou de l'État-providence peut être largement interprété comme une crise ou un recul de la propriété sociale. Bon, c'est en tout cas ce que je voudrais donner à discuter ce soir. La solidarité profonde de l'État social et de la propriété sociale, à la fois dans le processus de leur construction simultanée, qui a permis d'assurer une sécurité pour tous ou pour presque tous, et actuellement dans leur crise, dans la contestation dont ils sont l'objet, en particulier sous la poussée de l'idéologie et des pratiques néolibérales. Bon, alors, qu'est-ce que c'est plus précisément que la propriété sociale ? Bien, je ne vais pas répondre immédiatement à cette question parce que, pour bien comprendre sa nature et son importance, je crois qu'il faut partir de ce qu'était la situation avant qu'elle ne s'impose, et en particulier la situation de ceux qui étaient en dehors de la propriété et qui n'avaient que la force de leurs bras pour subsister, bon, c'est-à-dire la majorité des travailleurs. Cette situation, comme vous le savez, a été longtemps assez épouvantable. Et à vrai dire, ceux-là qui n'avaient rien n'étaient rien socialement parlant. Je n'exagère pas, je prendrai un seul témoignage, mais que je ne choisis pas au hasard, car il est de la BCIS, que vous connaissez sans doute au moins de nom, parce que ça a été le principal inspirateur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est donc pas un esprit spécialement réactionnaire. Cependant, dans une note du début des années 80, c'est-à-dire quelques années avant 1789, la BCIS parle, je le cite, « de ces malheureux voués aux travaux pénibles, producteurs de la jouissance d'autrui et recevant à peine de quoi sustenter leur corps souffrant et plein de besoins. Cette foule immense d'instruments bipèdes ne possédant que des mains peu gagnantes et une âme absorbée. » Et Seyès pose une question qui est assez terrible. Est-ce là ce que vous appelez des hommes ? Ce faisant, il n'exprime pas, ou pas seulement, je crois, un mépris de classe. Il fait un constat, au fond, d'ordre sociologique. Ces individus ne possédant que des mains peu gagnantes, ce sont littéralement ce que Marx appellera les prolétaires. Ou plutôt, puisque le prolétariat industriel n'existe pas encore, c'est la nébuleuse des petits métiers, hein, journaliers ou manœuvriers des villes et des campagnes, gens de peine et de bras, comme on dit encore, qui luttent quotidiennement pour leur survie. Et ils sont non seulement misérables, mais indignes socialement et méprisés comme tels, même par les esprits cultivés. Et Voltaire, lui aussi, parle à propos d'eux de la canaille. Et je crois qu'on peut voir là l'émergence de la question sociale moderne dans l'existence d'une classe non propriétaire, comme le dit un auteur de l'époque. En fait, le noyau du salariat moderne qui paraît voué à la misère et à l'indignité sociale. Alors, cette question émerge à la fin du XIXe siècle en France et en Europe occidentale, d'ailleurs, et va devenir la grande question du XIXe siècle, et elle va prendre une place de plus en plus centrale avec l'industrialisation. Car le travailleur industriel, le prolétaire au sens de Marx cette fois, devient le fer de lance du processus de production. Il est nécessaire à la production des richesses et les prolétaires sont de plus en plus nombreux, mais ils restent démunis de biens et de protection, d'où le risque de voir s'installer et se développer au centre même de la structure sociale une masse de quasi-instruments bipèdes, pour parler comme le bon abbé Seyès, des travailleurs et leurs familles misérables, perçus en même temps comme immoraux et dangereux, hein, classe laborieuse, classe dangereuse. Et on pourrait dire que ce problème s'aggrave de plus en plus au fur et à mesure que l'on avance dans le XIXe siècle, parce que avec l'industrialisation, l'urbanisation, le salariat se généralise. Et on commence à réaliser que le salariat est généralement un état irréversible dont l'expansion est organiquement liée aux transformations de la société moderne. Donc, en règle générale, lorsque on est salarié à vie, et aussi, il y aura de plus en plus de salariés dans la société moderne. Et la plupart de ces travailleurs de plus en plus nombreux ne deviendront pas propriétaires, et on voit le problème énorme que ça pose. Si la condition ouvrière reste dans cet état de misère et d'indignité qui est généralement la sienne, on va voir donc se développer au cœur de la société des masses de plus en plus nombreuses en état d'insécurité permanente, qui ne sont pas intégrées à la société industrielle qui se met en place et qui risque de basculer soit dans la déchéance, soit dans la révolte et de subvertir l'ordre social. Alors, l'invention de la propriété sociale, et j'en arrive à la propriété sociale, est la réponse qui a été trouvée à cette énorme difficulté. Et elle va consister, comme je le disais, à attacher des protections de la sécurité à la condition du travailleur lui-même. En fait, d'ailleurs, il y avait une autre réponse possible. La suppression de la propriété privée et son remplacement par la propriété collective. Et elle est portée, cette réponse, à l'époque, par les différents courants du socialisme révolutionnaire, le marxisme, etc. Mais évidemment, bon, les gouvernants et les classes possédantes n'en voulaient pas, et on pourrait dire peut-être que l'invention de la propriété sociale a été la manière d'économiser, au fond, la solution radicale révolutionnaire de la propriété collective, de conserver la structure sociale dominante tout en assurant une certaine place, en donnant des moyens minimums pour leur intégration à ces travailleurs non propriétaires. Ou, pour le dire autrement, la propriété sociale a permis de sortir du dilemme, de trouver une troisième voie, en somme, entre les défenseurs de la propriété privée, partisans du statu quo, mais qui renvoient à l'inexistence sociale une majorité de travailleurs, et, d'autre part, les partisans d'un socialisme collectivisme ou d'un communisme qui, soit dit entre parenthèses, s'imposera en Russie à partir de 1917, sous la forme de ce qu'on appellera le socialisme réel. Alors, en France, et d'ailleurs avec des variantes en Europe occidentale, on va pouvoir échapper à ce dilemme en rattachant donc de la sécurité au travail lui-même, en construisant à partir du travail des supports qui donnent des protections équivalentes ou quasi équivalentes à celles que donne la propriété privée. Alors, et c'est précisément ce que va promouvoir la propriété sociale. Donc, le mot de propriété sociale circule d'ailleurs à la fin du XIXe siècle dans cette famille de penseurs qui sont liés à la Troisième République et qui cherchent donc à fonder cette voie moyenne entre les libéraux attachés au laisser-faire et les tenants d'une révolution sociale radicale. Et je cite un de ses auteurs, Alfred Fouillet, qui publie en 1884 un livre qui s'appelle justement « La propriété sociale et la démocratie » et qui donne la caractérisation la plus explicite, en tout cas la plus explicite que j'ai trouvée, de la propriété sociale. Je cite « L'État peut, sans violer la justice et au nom de la justice même, exiger des travailleurs un minimum de prévoyance et de garantie pour l'avenir. Car ces garanties du capital humain, qui sont comme un minimum de propriété essentielle à tout citoyen vraiment libre et égal aux autres, sont de plus en plus nécessaires pour éviter la formation d'une classe de prolétaires fatalement vouée soit à la servitude, soit à la rébellion. » Cette citation, je crois, est extrêmement riche et je me permets rapidement de la commenter. On voit comment donc, sont articulés un rôle nouveau de l'État, et c'est le noyau de l'État social, qui peut et doit intervenir au nom de la justice et qui transgresse donc le tabou du libéralisme qui refuse toute intervention de l'État en matière sociale. Bon, le mode d'intervention de l'État, ou en tout cas un de ces modes privilégiés, est également donné. Il doit promouvoir l'assurance obligatoire, obliger les travailleurs à s'assurer contre les risques sociaux, ce qui leur donnera une sécurité pour l'avenir, au lieu de vivre au jour la journée, comme on disait, à la merci du moindre accident. Le produit de cette opération est également donné. Il donne comme un minimum de propriété, un équivalent de la propriété, qui assure aux travailleurs un minimum d'indépendance. Et enfin, la finalité politique de l'opération est également clairement affichée. Il s'agit de conjurer donc le risque de subversion que porte un prolétariat ou une classe ouvrière non stabilisée et qui n'aurait, comme le dira Marx, rien à perdre que ses chaînes. Alors, tel est le programme qui va constituer un axe majeur des lois sociales de la Troisième République, et au-delà même de la Troisième République, constituer le noyau du développement de cet État social, dont on voit bien maintenant, je pense, qu'il agit fondamentalement comme un réducteur d'insécurité, qui assure un minimum de sécurité à ceux qui étaient dans l'insécurité sociale permanente. Et cette politique de réduction des risques passe par la construction d'un type inédit de ressources qui a des fonctions homologues à la propriété privée. On pourrait dire que la propriété sociale est un analogone de la propriété privée. Une propriété pour la sécurité, elle diffère certes de la propriété privée. Ce n'est pas un patrimoine dont on dispose librement sur le marché. Elle dépend d'un système de droits et d'obligations. Prenons l'exemple de la retraite, par exemple. Je ne peux pas vendre mon droit à la retraite. Il n'est pas constitué et il ne circule pas dans le cadre des échanges marchands. Il faut avoir cotisé un certain nombre d'années, attendre un certain âge, etc. Il faut être un ayant droit. Mais lorsqu'on a rempli ces obligations légales qui sont garanties par l'État, on touche cette pension qui assure ce minimum de propriété, comme disait Fouillé, qui ne permet sans doute pas de vivre dans le luxe, mais qui au moins sauve de la misère et de l'indignité, qui conjure ce véritable drame qui était souvent la condition, par exemple, des vieux travailleurs qui ne pouvaient plus travailler et qui étaient condamnés à moins que leurs enfants ne puissent les prendre en charge, à aller croupir et mourir à l'hospice. Alors, je crois que là, il y a un changement tout à fait considérable par rapport à la situation des prolétaires des débuts de l'industrialisation, qui, littéralement, perdaient leur vie à la gagner et qui épuisaient toutes leurs forces de travail contre un salaire misérable. Et on voit que cette propriété sociale apporte une certaine limitation à l'hégémonie complète du marché sur le travail. Bon, les exigences du profit maximum ne dominent plus complètement la condition du travailleur. Il admet des contreparties sociales pour la protection des travailleurs. Et on pourrait dire que, dans une certaine mesure, le marché est domestiqué, encadré par la protection sociale. Non pas, évidemment, que le marché soit éliminé, mais il s'établit un certain compromis qui me paraît le noyau de ce que l'on appellera le compromis social qui va culminer au début des années 1970. Compromis entre les exigences du marché, c'est-à-dire les conditions nécessaires pour produire la richesse, et d'autre part, l'exigence d'assurer les conditions d'une sécurité minimale pour ceux et celles qui sont les principaux producteurs de cette richesse, à savoir les travailleurs et les travailleuses. Alors, voilà une présentation très, très schématique de la propriété sociale. Et d'ailleurs, elle est trop schématique parce qu'elle comporte au moins deux lacunes importantes dont je dois dire quelques mots pour que nous ayons une représentation plus complète, enfin, des enjeux qui tournent aujourd'hui autour de la propriété sociale. Premièrement, bon, pour souci de clarté, je m'en suis tenu au moment de l'émergence de la notion, hein, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui a donné lieu dans un premier temps à des réalisations pratiques très modestes, pour ne pas dire dérisoires. Ainsi, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, qui a été votée en France en 1910, après d'ailleurs 20 ans de débats acharnés, et qui a concerné très peu de gens, d'une part parce que étaient bénéficiaires de cette retraite seulement les tout petits salariés au-dessous d'un seuil assez bas de salaire, et aussi parce que la plupart d'entre eux mouraient avant de pouvoir la toucher, parce que à l'époque, un ouvrier arrivait rarement à 65 ans. Alors, la question qu'il faudrait traiter est celle-ci. Comment ces réalisations plus que timides du début du siècle se sont-elles renforcées, étendues pour former l'ossature de ce que François Ewald, par exemple, a appelé une société assurantielle, hein, et qui en est venu à couvrir, comme on dit, d'abord tous les salariés et même pratiquement l'ensemble de la population contre les principaux risques sociaux. Alors, ce dont il faudrait rendre compte ici, c'est le passage de la société industrielle à une société de salariat généralisé, hein, à une société salariale. Bon, je ne peux évidemment, en quelques minutes, restituer ces transformations qui ont été longues, complexes, qui ont donné aussi lieu à bien des conflits. J'ai d'ailleurs tenté de le faire ailleurs, et je crois pouvoir dire que si cette démonstration n'est peut-être pas facile, elle n'est pas infaisable, et qu'on peut montrer que ce que l'on peut appeler la société salariale, ce n'est pas seulement une société comme la nôtre où la majorité de la population active est salariée, mais c'est surtout une société dans laquelle les protections, les assurances, d'abord montées à partir du salariat et même du salariat ouvrier, en étaient venues à couvrir pratiquement tout le monde. Et on peut ajouter que cette société salariale est celle dans laquelle nous sommes encore, bien qu'elle soit menacée, et dans laquelle nous sommes parvenus grâce à la généralisation de la propriété sociale. Bon, la deuxième question, qui est d'ailleurs liée à la première, bon, j'ai présenté la propriété sociale à partir de ce que je crois être son noyau, ou du moins sa réalisation la plus caractéristique, hein, ce transfert direct du travail à la sécurité par l'intermédiaire de l'assurance obligatoire, et dont le droit à la retraite présente sans doute l'exemplification la plus claire, hein, d'une protection donc construite à partir du travail, et qui assure la protection du travailleur dans le hors-travail et jusqu'à la fin de ses jours. Mais la propriété sociale ne se réduit pas à ce type de prestation sociale. Elle consiste aussi à assurer la participation des individus non propriétaires à des biens et à des services collectifs dont l'État est le promoteur. Et c'est en premier lieu le développement des services publics qu'un juriste comme du début du siècle, Léon Duguit, définit ainsi. Toute activité dont l'accomplissement doit être assuré, réglé par les gouvernants, parce que l'accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale, et qu'elle est de telle nature qu'elle ne peut être réalisée complètement que par l'intervention de la force gouvernementale. Cette idée de l'interdépendance sociale est essentielle, c'est d'ailleurs transcription de la solidarité organique de Durkheim. Elle exprime la nécessité de maintenir un lien de réciprocité manifestant la participation des citoyens à un même ensemble pour que, bon, contre les risques de dissociation sociale, contre ce que l'on appellerait aujourd'hui l'exclusion, ils continuent à faire société au sens fort du mot, à être interdépendants les uns des autres, ce que d'ailleurs en termes politiques, on appelle constituer une nation, et qu'en termes sociologiques, on appelle la cohésion sociale. Et c'est la force gouvernementale, l'État, qui construit cette interdépendance en mettant à la disposition de tous des biens et des services que tout le monde peut utiliser. Un rôle essentiel de l'État moderne est de se faire l'agent d'une distribution concertée de services au nom de l'intérêt général, parce que les entreprises privées, et justement parce qu'elles représentent des intérêts privés particuliers, ne peuvent assumer suffisamment. Et d'ailleurs, cette conception du service public débouchera après la Seconde Guerre mondiale à la nationalisation de certaines entreprises, l'idée étant que les pouvoirs publics doivent aussi administrer certaines entreprises parce que les biens qu'elles produisent présentent un intérêt collectif dont la gestion ne peut être laissée à l'initiative privée. Alors, on voit qu'il existe de fortes disparités entre ces différentes configurations de la propriété sociale. Auquel d'ailleurs il faudrait ajouter au moins le logement social, hein, qui est un autre moyen de faciliter aux non-propriétaires l'accès à un bien essentiel, en l'occurrence le logement. Alors, je ne prétends pas que la propriété sociale présente une unité conceptuelle absolue. En tout cas, j'avoue que je ne suis pas capable de l'établir complètement. Mais ces différentes réalisations de la propriété sociale ont au moins le même objectif qui est ce que l'on pourrait appeler la réhabilitation sociale des non-propriétaires. Même dépourvus de propriété privée, ceux-ci participent désormais à la richesse sociale, soit en disposant d'une sécurité sociale sous forme de système d'assurance garanti par l'État, soit sous la forme de l'accès à des biens et à des services collectifs mis à leur disposition par la puissance publique dans une logique qui n'est pas celle du pur marché. Et je suggérerais que ce sont les deux pôles de la propriété sociale qui fondent une citoyenneté sociale au sens fort du mot. Si cette notion de citoyenneté sociale, à mon sens, un peu trop galvaudée aujourd'hui, a un sens précis, il me paraît être celui-là. La propriété privée n'est plus le seul fondement de la citoyenneté. Le non-propriétaire, lui aussi, a droit à des droits sociaux et des assurances sociales. Il participe à des prestations et à des services collectifs dont l'État est le garant et qui fonctionnent en somme comme, je le disais, des analogones de la propriété privée pour les non-propriétaires. Alors voilà donc ce que je voulais donner à discuter sur la nature et les fonctions de la propriété sociale. Alors, il est temps que j'en arrive, mais je pourrais le faire plus rapidement maintenant, à la deuxième partie de mon propos que j'annonçais, à savoir la contestation et l'ébranlement de la propriété sociale et du rôle de l'État qui lui sert de support. Dans le cadre de la crise, entre guillemets, de la société salariale, mais qui est sans doute bien davantage qu'une crise, une recomposition assez profonde des relations entre l'économique et le social et la remise en cause du compromis social que j'ai évoqué tout à l'heure et dont la propriété sociale formait l'ossature. Alors, je n'ai évidemment pas le temps de faire un bilan des transformations considérables qui sont produites depuis 25 ans. Je me contenterai donc de signaler leurs répercussions sur les différents aspects de la propriété sociale que j'ai distingués, ce qui d'ailleurs prouve à contrario l'unité au moins relative de la notion, car ces différentes configurations sont toutes aujourd'hui affectées, même si c'est d'une manière inégale. Alors, je disais que la nationalisation de certaines entreprises avait été la pointe avancée de la propriété sociale jusque dans le secteur économique, dans le cadre d'une économie dirigée de type keynésien. La puissance publique prenant directement en charge l'administration de certaines entreprises au nom de l'intérêt collectif. Bien, c'est aussi le secteur le plus dégradé de la propriété sociale et sans doute en état de liquidation sociale et même en France sous un gouvernement socialiste, la privatisation des entreprises nationalisées s'est accentuée. Et je crois qu'on peut dire que partout dans le monde, enfin, triomphe la tendance de remettre au marché la production ou la gestion de biens et de services qui ont directement une valeur marchande. Alors, ce qui se passe au niveau des services publics proprement dit me paraît plus complexe. D'une part, on observe une tendance générale à aligner la gestion de ces services sur le mode de fonctionnement des services privés. On y parle aussi d'efficacité, de souplesse dans le service à la clientèle, etc., ce qui d'ailleurs ne me paraît pas nécessairement scandaleux en soi. Mais on observe aussi la tendance à renvoyer au privé, à privatiser des services qui avaient d'abord été mis en place par les pouvoirs publics. Par exemple, comme vous le savez, les télécommunications en France ont été développées par la puissance publique, ce qui d'ailleurs a coûté assez cher aux contribuables, mais seul l'État était capable de ce type d'investissement, ou en tout cas, bon, il n'intéressait pas le secteur privé parce qu'il n'était pas rentable. Mais récemment, comme vous le savez, on a privatisé au moins partiellement Télécom parce qu'il s'agit désormais de biens qui peuvent être rentables. Et ce type de transfert du public au privé est aussi une tendance générale, particulièrement accentuée dans certains pays comme l'Angleterre de Madame Thatcher, par exemple, sans même parler de pays comme l'Argentine, où il ne reste pratiquement plus rien de vendable, de type public, qui n'ait pas été vendu. Alors, nous n'en sommes pas encore là en France, mais il me semble que cette orientation pose une question de fond. Y a-t-il des biens qui ne sont pas commercialisables, c'est-à-dire dont la nature est telle qu'il ne faut pas les remettre au marché? Et ceci même ces biens peuvent être vendus, peuvent être vendables. Car peut-on les remarchandiser en étant assuré qu'ils continueront à assumer leur fonction collective, d'être les instruments de cette interdépendance sociale, comme le disait Duguay. Et je pense en particulier à ces deux biens essentiels que sont l'éducation et la santé, qui ont constitué sans doute les deux piliers principaux du service public. Et ici aussi, on assiste à la montée d'un esprit gestionnaire et comptable. Alors certes, le souci d'alléger le poids des dépenses publiques est légitime, mais je crois derrière, il y a la question de savoir si le coût d'un service public peut être réduit à son prix sur le marché. Car la vocation du service public n'est-elle pas de mettre au premier plan l'intérêt général, et sans doute la puissance publique peut être le seul garant de cet intérêt collectif, simplement parce que la logique du privé est la logique du profit, ce qui est normal, mais qui ne peut pas assumer cette fonction d'intérêt collectif. Alors, en tout cas, il y a, me semble-t-il, une tension, si ce n'est une contradiction entre ces deux logiques, et sans céder au catastrophisme, on peut dire qu'aujourd'hui, le rapport de force paraît du côté de la recherche de la rentabilité plutôt que du côté de la défense de la propriété sociale au service de l'intérêt collectif. C'est-à-dire que la progression de la logique de la marchandisation tend à réduire la prééminence de la juridiction publique et la place de l'État. Alors, la même tension est à l'œuvre, me semble-t-il, à travers la recomposition actuelle de la protection sociale. J'ai souligné que c'était à travers l'institution de l'assurance obligatoire, débouchant sur une sécurité sociale généralisée, que la propriété sociale s'était affirmée de la manière la plus éclatante. Mais ici aussi, on parle aujourd'hui de crise de ce système de protection qui se donne d'abord comme une crise de son financement. Et de fait, si l'essentiel de la protection doit être financé par les cotisations sociales à partir du travail, on conçoit que le chômage de masse, la précarisation croissante des emplois, le vieillissement de la population active, etc., risquent de bloquer le mécanisme du financement. D'où des réformes dont certaines ont déjà été mises en place, comme le financement par la contribution sociale généralisée, la CSG, ou sont envisagées comme les discussions en cours sur le régime des retraites. Mais on peut se demander aussi si, au-delà de ces questions de financement, ce n'est pas la logique même du système de protection sociale qui est menacée. Le point d'aboutissement de la protection sociale que j'ai essayé de dégager tout à l'heure, c'était de couvrir l'ensemble de la population par des mesures générales à vocation universaliste. En somme, assurer tout le monde ou presque à partir de grandes régulations homogènes, ce qui est une logique inverse à celle de l'assistance, qui consiste à dispenser des secours à des populations particulières parce qu'elles ont des difficultés particulières, selon la logique du ciblage ou ce qu'on appelle en Amérique du Nord la discrimination positive. Mais on assiste actuellement, je crois, à la multiplication de ce qu'on appelle les minima sociaux, c'est-à-dire des prestations qui sont attribuées sous condition de ressources à des groupes qui ont des difficultés particulières. Il y a actuellement en France, je crois, 7 minima sociaux, le dernier en date étant le revenu minimum d'insertion. Alors, il ne s'agit pas du tout de condamner ces nouvelles dispositions qui sont des manières de faire face à une situation devenue plus difficile et qui me paraissent préférable au laisser-faire, à l'abandon pur et simple des personnes en difficulté. Bon, c'est une manière de conserver les protections, mais il faut se demander si on n'assiste pas à une transformation du régime des protections lui-même. Hein, au lieu de régimes généraux de protection de la société salariale, on aurait un régime de protection à deux vitesses, c'est-à-dire d'une part des assurances générales et solides pour ceux qui continuent à être fortement intégrés aux structures de la société salariale, et des protections particulières pour ceux qui ont décroché des régulations générales et auxquelles on accorderait quelques compensations à partir de leur infériorité. Et prestations d'ailleurs non seulement inférieures à celles qui sont tirées du travail, mais qui risquent d'avoir un aspect stigmatisant dans la mesure où elles sont souvent attribuées sur la base d'une déficience ou du moins du constat que l'individu n'appartient plus au régime commun. Et on peut se demander si aussi on n'assiste pas à travers ces transformations à une altération profonde de la notion de solidarité hein, qui signifiait, comme je le disais tout à l'heure, l'interdépendance des parties par rapport au tout. La solidarité n'est-elle pas en train de devenir une forme de mansuétude, hein, une sorte de bienveillance à l'égard de certaines catégories auxquelles on accorde quelques secours. Ainsi, l'allocation spécifique de solidarité accordée aux chômeurs en fin de droit lorsqu'ils ont décroché justement des droits qui étaient attachés au travail et qui s'inscrivaient dans la logique de la propriété sociale. Alors, en généralisant ces propos, on pourrait se demander si on n'assiste pas actuellement à une sorte de revanche de la propriété privée sur la propriété sociale. La propriété sociale n'a jamais supprimé la propriété privée. Et on pourrait même défendre la thèse qu'elle l'a sauvée en économisant l'option collectiviste. Mais elle avait limité son hégémonie en assurant, comme j'espère l'avoir montré, la sécurité des non-propriétaires. Et c'est peut-être la figure propriétaire qui revient au premier plan sous des formes d'ailleurs très nouvelles, car ce n'est plus la propriété terrienne qui dominait dans la société pré-industrielle, ni ce n'est plus non plus le rentier qu'a dépeint des auteurs comme Balzac par exemple, et qui était si puissant au XIXe siècle et même au-delà. Ce n'est plus non plus le capitaine d'industrie de la grande époque de l'industrialisation, c'est surtout le capital financier, hein, la recherche du profit pour le profit à n'importe quel coût. Et si cette propriété-là l'emportait absolument, il n'y aurait plus de place pour la propriété sociale, ni pour l'État social comme instance de régulation, réducteur d'insécurité et pourvoyeur de services publics pour rappeler bon, les deux rôles principaux qu'il a tenus dans la société salariale. Bon, mais nous n'en sommes pas encore là, et puisqu'il est temps de conclure, je ne voudrais pas conclure sur un propos intégralement pessimiste. Il me semble que le diagnostic que l'on peut porter aujourd'hui est celui de l'effritement de la société sociale et non celui de son effondrement. Hein, on observe certes un développement de la précarité, qui d'ailleurs, à mon avis, s'origine dans une précarisation croissante des relations de travail, mais c'est une précarité encore entourée et traversée de protections. La sécurité sociale, que je sache, existe encore en France et pour presque tout le monde. L'État social existe aussi, et on pourrait même prétendre que ces interventions n'ont jamais été aussi nombreuses et aussi variées qu'aujourd'hui, même si elles ne sont pas toujours efficaces. Et par exemple, la dernière loi qui vient d'être votée sur la couverture médicale universelle là, est une extension de la protection sociale à ceux qui en étaient exclus jusqu'à maintenant. Donc, il me semble que l'état social est aujourd'hui contesté, menacé, critiqué, mais il n'est ni mort, ni même moribond. Et que son rôle protecteur est encore puissant, comme le montre d'ailleurs, à contrario, la virulence des attaques dont il est objet par l'idéologie libérale. Alors, il me semble que les analyses qui président son effondrement sont des extrapolations unilatérales de tendances qui existent, qui sont fortes aux dérégulations. Mais si ces tendances sont fortes, elles ne sont pas hégémoniques. Et il me semble que la situation actuelle comporte trop de paramètres pour que on puisse prétendre que l'avenir est joué, d'autant qu'il dépendra d'ailleurs aussi de ce que nous ferons ou ne ferons pas aujourd'hui pour l'assurer. Bon, de toute manière, je ne suis pas prophète et mon propos n'était pas de prédire l'avenir. Il était d'essayer de saisir l'importance des enjeux qui se sont noués et qui se jouent encore aujourd'hui, je pense, autour de la propriété sociale. Bon, certains d'entre vous penseront sans doute que j'en ai fait une présentation exclusivement positive et que la propriété sociale, comme toute chose d'ailleurs, a un coût qu'il faudrait aussi évaluer. Et en un sens, c'est vrai. Enfin, j'ai fait une présentation que j'espère objective, mais en même temps, une défense de la propriété sociale. Et en voici la raison. Je pense que l'invention de la propriété sociale a représenté comme une révolution dont l'importance n'a pas toujours été assez soulignée parce que ça a été une révolution silencieuse qui s'est développée sur le long terme, au moins sur un siècle. Mais elle a profondément bouleversé la condition salariale de la majorité des populations, la condition sociale, pardon, de la majorité de la population des sociétés occidentales. Et elle était parvenue, pour l'essentiel, à juguler cet état de précarité et d'insécurité sociale permanente qui avait été le lot séculaire de la majorité des travailleurs. Bon, je ne crois pas que ce soit un jugement de valeur, mais c'est ce qu'atteste l'histoire sociale depuis le début du XIXe siècle. Alors, sur la base de cette analyse, j'affirme, ce qui est peut-être un jugement de valeur, mais que j'assume, que c'est une notion qui mérite considération et qu'il serait bon de réfléchir à deux fois avant de proclamer qu'elle est périmée et qu'il est temps de passer à autre chose, à l'acceptation de l'hégémonie totale du marché, par exemple. Non pas nécessairement qu'il faille conserver la propriété sociale en l'état, sous la forme exacte qu'elle a prise dans le compromis social du début des années 70, parce qu'il y a certainement de l'irréversible dans les transformations qui se sont produites depuis 25 ans et qui ont ébranlé la société salariale. Mais il me semble que la question demeure actuelle et essentielle de savoir s'il est possible de redéployer la propriété sociale dans une conjoncture nouvelle marquée par davantage de mobilité, des exigences de compétitivité et de concurrence accrue, etc. En somme, essayer de trouver de nouvelles formes de compromis entre, comme je le disais tout à l'heure, les conditions requises pour produire les richesses, qui renvoient à des exigences qui peuvent être légitimes du marché, et d'autre part, les conditions requises pour assurer la protection et la reconnaissance sociale de ceux dont le travail produit ses richesses. Alors, ceci, c'est évidemment un autre questionnement dans lequel on ne peut entrer maintenant et qui d'ailleurs soulève des difficultés redoutables, mais il s'impose si on accepte l'importance qu'a revêtue et que revêt la propriété sociale dans la société salariale. Car il me semble que, faute de lui trouver une réponse, on sortirait certes de la société salariale, mais par le bas, en risquant de renouer au nom de la recherche de l'efficacité, de la compétitivité à n'importe quel prix, avec cette indignité de la condition travailleuse que j'ai évoquée en commençant pour montrer ce qu'était globalement le monde du travail avant l'instauration de la propriété sociale. En somme, on risquerait, au nom de la célébration d'un avenir affranchi des contraintes, des réglementations bureaucratiques, étatiques, etc., on risquerait de retrouver les formes les plus anciennes de la misère travailleuse et de la sécurité sociale. En tout cas, je vous remercie de votre attention.
Quatre points, s'il vous plaît. Premièrement, sur le plan de la construction du concept de propriété sociale, bon, il faudrait voir peut-être à l'origine qu'est-ce que peut signifier tout à fait aux origines d'une constitution politique un concept de propriété sociale. Voilà, et à quoi... Bon, enfin bref. Deuxièmement... Deuxième point, quand vous dites, oui, il y a effectivement un conflit ou une contradiction entre des droits attachés au travail et des droits qui sont conférés par la solidarité. Je préfère pas parler d'ailleurs de droits, parce que est-ce qu'on a abouti vraiment à des droits de l'individu ? Ce sont en fait des prestations plutôt que des droits. Est-ce qu'on lui donne... vous savez, c'est un peu les célèbres phrases des gens qui nous gouvernent. « Oh, il n'y a qu'à leur donner de la dignité. S'ils en demandent, ça ne coûte rien. Je croyais qu'ils voulaient des sous, mais s'ils veulent de la dignité, il y en a à vendre. » Je crois que là, le verdict est faux. C'est-à-dire que ce qui coûte le plus cher, c'est la dignité. C'est de donner un statut, des droits à des personnes. Donc, pour prendre cette contradiction que vous avez relevée, si les droits attachés au travail sont trop forts, ils risquent de s'exercer à l'encontre des soi-disant droits, en tout cas des possibilités d'action qui sont ouvertes par donc, les phénomènes de solidarité. Ça pose des problèmes assez sérieux. Voilà. Bon, on pourrait gloser. Troisième point, les conditions de la propriété. Donc moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas une véritable... C'est-à-dire le concept de propriété, c'est un peu, ça revient un peu sur le problème de la construction du concept. Mais qu'est-ce que c'est que la propriété sociale par rapport à la propriété publique ? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce point ? Et en quoi la propriété publique, c'est le problème aussi, si vous voulez, d'une propriété publique dont chacun pourrait user ? Et la différence qui séparerait, donc qui distinguerait dans le concept de propriété, si vous voulez, sur un plan juridique tel qu'il est construit, vous avez l'usus, la faculté d'user, si vous voulez, de saisir une chose, la faculté... Le fructus, la faculté de recueillir les fruits de la chose. Et enfin, l'abusus, la faculté de abuser, de détruire la chose, d'en faire ce que vous voulez. Donc, pour la propriété sociale, à mon avis, il faudrait éviter le risque d'abusus. Enfin, je voudrais conclure...
Rapidement, s'il vous plaît.
Sur le problème, en fait, de l'idée proudhonienne, comme quoi la propriété sociale, ou la propriété, quelle qu'elle soit, doit se mériter. Hein, c'est surtout, je crois, dans son second mémoire, enfin, je connais mal la question... Mais ça me donne l'idée qu'en fait, si on retire, si la propriété sociale est en déclin, c'est qu'en fait, la collectivité, en tout cas, démérite, enfin, il y a eu un démérite. Et donc, est-ce que ce jugement vous paraît, disons, stable ? Voilà, je vais m'arrêter là, peut-être. Voilà,
merci. Oui, merci.
Mais je vous remercie, mais j'espère qu'il n'y aura pas 4 questions pour chaque question. Bon, je vais répondre très vite, parce que pour aussi que un maximum de gens puissent s'exprimer. Bon, en prenant la première et la troisième question, d'ailleurs rapidement, sur la construction du concept de propriété sociale, bon, c'est vrai que ce terme de propriété sociale a eu historiquement plusieurs usages. Moi, je le reprends dans la lignée que, je crois, Henri Asfeld a été le premier à dégager dans son livre qui date de 1970, voilà, et qui s'appelle du paupérisme à la sécurité sociale, et où il prend justement ce sens de propriété sociale comme justement ce noyau de protection qui est d'abord construit à partir du travail. Et bon, cette, si vous voulez, une propriété de transfert à partir du travail. Alors ça me paraît... Enfin, une idée forte que j'ai essayé d'ailleurs de déployer un petit peu, mais auquel je renvoie justement à Henri Asfeld pour l'avoir, si on peut dire, sorti. Bon, j'ai avoué moi-même que la propriété sociale n'était sans doute pas un concept conceptuellement, si je puis dire, complètement cohérent. Et entre ça et le service public et comme vous avez dit, la propriété publique, bon, il n'y a pas une cohérence absolue. Et bon, simplement, je l'avoue, j'ai essayé d'y réfléchir pas mal. Si d'ailleurs quelqu'un pouvait me le dire, je lui en serais reconnaissant. Mais par contre, je crois que les fonctions de cette constellation sont justement identiques ou en tout cas similaires dans ce que j'ai appelé, elles ont servi à cette réhabilitation sociale des non-propriétaires. Et de ce point de vue, je crois que la notion de service public a été essentielle. Et je crois qu'on sous-estime l'importance, quand on va dans des pays comme certains pays, je ne veux en nommer aucun parce que ça n'aurait de toute façon absolument rien de méprisant, mais c'est malheureux, où il n'y a pas du tout de service public, etc. Bon, on se rend compte à quel point nous avons encore la chance d'être dans des pays de ce type, et c'est une différence essentielle par rapport à la possibilité de disposer d'un minimum d'autonomie, d'indépendance, etc. Ce minimum de propriété dont parlait Fouillé. Et enfin, alors, sur la dernière question, bon, il faudrait avoir une discussion, faudrait que vous explicitiez davantage. Vous dites que la propriété sociale doit se mériter, sans doute. D'ailleurs, souvent, elle se mérite. Je pense qu'en général, la retraite, ça se mérite en général, et que le destin d'un travailleur qui a travaillé toute sa vie n'est pas d'aller mourir à l'hospice, comme ça a été quand même le cas avant la propriété sociale. Alors, est-ce que toutes les formes de propriété sociale se méritent par un effort personnel ? Sans doute pas, mais là, on retrouverait... l'idée de solidarité, d'ailleurs, qu'ont développé, entre autres, ces penseurs de la Troisième République que j'ai évoqués, dans lesquels, au fond, l'idée que nous sommes, naissant dans une société, nous sommes des héritiers. Il y a des gens qui ont déjà constitué pour nous de la richesse sociale. Et de ce fait, nous avons à la fois des droits et des devoirs. Et au sens social du mot, j'entends. Et donc, là, on pourrait aussi parler du fait, la tension ou la contradiction que j'ai notée et que vous avez reprise entre droits attachés au travail et d'autres droits, qui sont néanmoins, je crois, des droits. Hein, le droit au secours, par exemple, c'est un droit. Le RMI, c'est un droit. Et je pense qu'il faut reconnaître que ce sont souvent des choses positives, mais qui n'ont pas l'universalité et la dignité des droits qui sont rattachés au travail. Et là-dessus, s'il n'y a pas peut-être une contradiction, je crois qu'il y a une tension entre ces deux types de droits, et je pense que nous serions sans doute à peu près d'accord là-dessus.
Une question là, à ma...
Oui, ici. Dans la leçon d'aujourd'hui...
Ah, pardon. Oui,
dans la leçon d'aujourd'hui, j'ai senti que vous opposiez l'économique et le social, ou plutôt le social et le rentable. Mais dans la défense de cette propriété sociale, est-ce que l'on ne peut pas regarder plutôt que certaines ressources sont gérées de façon individuelle, tandis que d'autres sont gérées de façon collective, parce qu'elles correspondent à des investissements collectifs, tels que la santé, l'éducation, la sécurité ou la protection. De la même façon, est-ce que l'on ne peut pas considérer que ce que vous appelez la propriété sociale contribue à la richesse collective ou même à la richesse de certaines parties de la population? Je vais prendre brièvement l'exemple du régime assurance chômage. Si cette assurance n'existait pas, est-ce que le coût du travail ne devrait pas être beaucoup plus élevé du fait de l'épargne de précaution que devraient se constituer les travailleurs? Si cette épargne, si cette assurance n'existait pas, est-ce que cela n'aurait pas une implication dans les périodes de fort chômage comme actuellement sur le prix de l'immobilier, par exemple?
Mais je me suis peut-être mal fait comprendre, mais je n'oppose pas du tout l'économique et le social. Je crois que cette opposition, c'est un effet de la position libérale. Et vous avez peut-être reconnu que je ne l'épousais pas exactement, cette position libérale. Et je pense au contraire, et je crois que là aussi, l'histoire du développement, de la modernisation de la France, par exemple, mais aussi de l'Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale, montre qu'il n'y a pas d'opposition entre l'économique et le social, puisque on était de pair, justement, un progrès économique, une croissance considérable, et aussi une croissance parallèle de l'État social, des protections sociales, de la sécurité sociale, etc. Donc, l'ajustement des deux choses, c'est certainement pas facile à faire, mais je pense pas qu'il y ait opposition de principe. Par contre, ce que, effectivement, je récuse, c'est l'hégémonie de la dimension économique, simplement parce que je crois qu'elle est destructive de la cohésion sociale. Je pense, contrairement à certaines personnes qui sont critiques à l'égard de l'économie et du marché, moi je pense qu'il faut accepter le marché, qu'on ne pourra pas vivre un avenir de l'humanité sans une présence forte du marché. On ne peut pas retourner à des Gemeinschaft, des petites communautés, des choses comme ça. Mais il faut accepter le marché, mais il faut essayer justement de l'encadrer, de le domestiquer. Et cela, effectivement, il ne peut pas le faire par lui-même. Et bon, ça a été, je pense, bon, c'est une thèse aussi de Karl Polanyi, par exemple, la fonction du social, ça a été cette tentative de domestication, de limitation, d'encadrement, mais sur la base, en même temps, de son acceptation. Donc, en tout cas, je ne me mets pas dans le cadre d'une opposition absolue de l'économique et du social. Ce qui ne veut pas dire que ce soit facile, effectivement, de les articuler.
Une question ici, maintenant.
Je vais vous demander, d'une part, le principe même de protection sociale, si j'ai bien compris, est financé par le travail. Or, dans un pays où il y a beaucoup de chômeurs, est-ce que cela est suffisant? Et deuxième question, comment peut-on lutter contre les abus qui consistent à employer des gens qui ne font rien et simplement qui ont des rapports, disons, privés avec tel ou tel patron?
Oui. Alors, en tout cas, sur la première question, ben, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Bon, c'est vrai que la forme majeure, j'allais dire, de la propriété sociale, c'est un transfert direct du travail en protection qui est financé par les cotisations du travail. D'ailleurs, comme vous savez, à la fois des employeurs et des employés. Et c'est malheureusement, justement, un problème lorsque, à la fois, le chômage, le travail intermittent, aussi des raisons démographiques, enfin, du vieillissement de la population active, rendent ce financement difficile. Et je crois que, bon, c'est la question, par exemple, de la contribution sociale généralisée. Et, à vous... moi, j'ai hésité, j'allais dire, j'ai essayé de réfléchir, j'allais dire, je suis quand même pour cette CSG. Je regrette, dans un certain sens, parce que c'est un affaiblissement, d'une certaine manière, de la propriété sociale. Mais par contre, il est à craindre que aujourd'hui le travail ne puisse pas être la source du financement, en tout cas quasi intégral, comme il a été, de la protection sociale. Et bon, la CSG, c'est de laisser cela, bon, sous des formes sans doute moins, entre guillemets, parfaites, mais quand même avec la responsabilité et la garantie de l'État, plutôt que de renvoyer ça, comme c'est une tentation, tout à fait, vous êtes au courant sans doute des discussions, bon, à des financements de type privé, où on risque de déboucher sur ce régime à deux vitesses que j'évoquais tout à l'heure.
Deux dernières questions, et très rapides, s'il vous plaît.
Tout à l'heure, à la fin de votre exposé, vous vous êtes déclaré optimiste. Moi, je n'ai pas été très convaincu par votre optimisme. Et pourquoi ? Parce qu'au début, vous avez bien souligné, la protection sociale, elle était d'abord essentiellement une sécurité et la fonction redistribution a été très faible. Il me semble qu'en ce moment où on est en train de sortir d'une période, un siècle entier, de travail d'instruments bipèdes, comme vous disiez, d'instruments bipèdes interchangeables et un peu standardisés. À notre époque où on va passer beaucoup plus à une création de richesses à partir de capital et à partir de réactions des individus à des problèmes posés en termes de communication, en termes d'intervention, en termes de services ponctuels, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'organiser une redistribution beaucoup plus forte et pas seulement basée sur les ressources des cotisations du travail pour avoir une protection généralisée à l'ensemble des citoyens. Il me semble que la redistribution devrait se faire sur base de citoyenneté et non pas sur base d'emploi salarié. Il y a là une réflexion, me semble-t-il, à ouvrir pour le futur.
Oui, je n'ai pas du tout dit que j'étais optimiste. J'ai dit que je ne voulais pas conclure sur un point intégralement pessimiste, ce qui est autre chose. Mais ces catégories d'ailleurs d'optimisme et de pessimisme n'ont sans doute pas une énorme valeur, c'est très subjectif. Je pense effectivement, en tout cas c'est le rôle du sociologue à mon avis, c'est de faire un diagnostic aussi précis que possible sur la situation actuelle. Or il me semble, bon je n'ai pas le temps de le faire, il me semble que cette situation elle est contrastée, elle est complexe et il y a une perversité des discours unilatéralement catastrophistes, dont certains d'ailleurs sont plutôt sympathiques, portés par des gens pour qui j'ai de la sympathie, comme Gortz ou comme Vivan Forester. C'est des discours unilatéraux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et de sorte que, moi, il me semble, mais là, il y a une part aussi de conviction là-dedans, que les jeux ne sont pas faits, que nous sommes plutôt à la croisée des chemins. Et que aussi, c'est d'une certaine façon une invitation à ne pas subir d'une manière purement passive un certain nombre de tendances fortes qui existent dans la société actuelle. Alors ça, bah, évidemment, c'est une position qui est en partie subjective et qui se discute, mais qui est peut-être au-delà de l'optimisme et du pessimisme. Quant à la question de la redistribution, bon, malheureusement, je crois qu'on n'a pas le temps d'en discuter. Je pense que vous pensez, si je peux dire, à des choses de type allocation universelle, revenu minimal, etc. Moi, je suis très, très réticent à l'égard de ces mesures, mais... pas pour les condamner, et de toute façon, malheureusement, je crois, il y aurait peut-être d'autres occasions de discuter de ça, je ne crois pas qu'on puisse en discuter ce soir. En tout cas, je propose comme schéma de réflexion, et qui me paraît justement pouvoir éclairer un certain nombre de choses, cette différence entre le rôle protecteur de l'État et le rôle redistributeur de l'État. Trop souvent, on les comprend. On les confond. La société salariale, à l'époque de sa plus grande expansion, les 30 glorieuses, comme on dit parfois, elle a été faiblement redistributrice. C'est un peu comme l'image de l'escalator. Hein, tout le monde monte sur les marches et la distance, elle est à peu près la même. Eh bien ça, les inégalités entre les catégories sociales sont restées à peu près les mêmes, même aux périodes de forte croissance. Je ne dis pas que ce soit bien du tout, c'est un constat sociologique. Ce n'a pas été une égalisation des situations. Par contre, je pense que le rôle protecteur de l'État social a été fort pour à peu près l'ensemble des membres de société salariale. Alors, je ne dis pas qu'il faille durcir complètement cette opposition ou dire même que c'est un bien que ça fonctionne comme ça, mais je pense que c'est une distinction qui me paraît éclairante dans l'évaluation qu'on peut faire des politiques sociales.
Une toute dernière question.
Je voudrais vous demander, puisque vous avez parlé du service public, comment vous pensez qu'on peut redynamiser le service public qui est un peu évacué dans votre propos, mais aussi par beaucoup de gens qui étaient très compétents. Enfin, le scandale du Crédit Lyonnais est une preuve d'une gestion vraiment avec plein de failles du service public. Comment on peut le redynamiser ? Et est-ce que, ma seconde question qui est très concrète, est-ce que vous ne croyez pas que l'eau devrait être la distribution de l'eau devrait être renationalisée ?
Écoutez, alors je ne voudrais pas refuser de répondre ce qui pourrait paraître discourtois, c'est pas du tout cela. Bon, j'ai pas de compétences pour répondre à l'une et à l'autre, d'ailleurs, de vos questions. Bon, je ne suis pas... Il s'en faut un esprit universel. Je pense qu'on peut faire une analyse, effectivement, bon, qui montre qu'il y a une spécificité du service public. Il me semble qu'il y a des fonctions qui, dans une société, ne peuvent pas être assumées sur la base de la recherche du pur profit, de la mise en concurrence, enfin, etc. Et ça, je pense, enfin, cette analyse, bon, mais au fond, enfin, un peu dure qu'est mienne, un peu au nom de la cohésion sociale, à moins d'accepter que la société, ça fout le camp dans tous les sens et ne soit plus une société au sens fort du mot. Bon, je crois qu'on peut, en tout cas, argumenter ça avec des arguments forts. Par contre, comment redynamiser le service public, je ne peux pas y répondre. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on puisse y répondre à ce niveau d'abstraction. Hein, c'est sans doute, je ne sais pas, dans tel... si vous travaillez au PTT ou si vous travaillez au ministère des Finances, etc. Bon, c'est des questions plus concrètes, plus pratiques, etc. Ce qui ne veut pas dire du tout méprisable, loin de là. Et quant à la question de l'eau, je n'en sais rien. Il me semble que, en tout cas, si, comme disent certains, l'eau était ou devenait un bien rare, ou en tout cas, eh bien, oui, menacés de devenir rares, il vaudrait peut-être mieux que, justement, une instance collective s'en occupe plutôt que, justement, de laisser ça aux utilisateurs sauvages, aux pollueurs, enfin, etc. Mais enfin, ça, ce n'est pas une réponse très, très scientifique, je vous l'accorde.
Robert Castel, je vous remercie.
Merci.